Bonjour. Nous allons aujourd'hui terminer la série d'études que nous avions commencé il y a quelques mois sur les miracles de Jésus dans l'évangile de Jean. Et aujourd'hui, nous avons, comme vous l'avez vu, comme vous l'avez lu, nous allons terminer par peut-être celui qui est le plus grand, le plus beau, le plus extraordinaire, le plus étonnant, c'est bien sûr le miracle que Jésus accomplit en ressuscitant Lazare. C'est un miracle qui est raconté en détail, il tient en beaucoup plus de lignes que les autres, peut-être pour la raison d'abord que c'est un miracle plus spectaculaire. Remarquez, tout miracle est un miracle. Qu'il s'agisse de guérir un malade, qu'il s'agisse de transformer l'eau en vin, qu'il s'agisse de faire marcher quelqu'un qui n'a pas marché depuis 38 ans, c'est toujours un miracle. Mais évidemment, sortir quelqu'un de la mort, c'est encore plus marquant. J'ai remarqué que dans la Bible, Dieu a ressuscité plusieurs morts. Savez-vous combien de fois Dieu a ressuscité des morts? Alors, à l'exception de Jésus, hein, qu'il a bien sûr ressuscité des morts, d'après vous, est-ce que dans la Bible, je vais vous faire une petite question, un petit quiz. Est-ce que Dieu, sans compter Jésus, hein, est-ce que Dieu a ressuscité 7 morts dans toute la Bible? Est-ce qu'il y a 7 résurrections de morts dans la Bible? Est-ce qu'il y en a 13 ou est-ce qu'il y en a 20? 7? 13? Vous êtes sûr que c'est pas 20? Hein, vous êtes sûr que c'est pas 20? 7
plus
13. Alors, il faut choisir. Non, mais attendez, j'essaye de vous... 7? Oui, c'est 7. Alors oui, voilà, maintenant vous allez me les citer. Alors, Lazare, c'est d'accord. La fille. Le fils n'était pas mort. On ne sait pas s'il y avait un fils. La fille de Jaïrus, d'accord.
Celui qui l'a monté sur le toit.
Comment ?
Celui qui est monté sur le toit.
Non, ça c'est un autre miracle. Il était malade, mais il n'était pas mort. Ah, comment il s'appelait celui-là? Oui, ça commence par E. E. Allez, je vais vous le dire parce que c'est quand même compliqué. C'est pas un prénom vietnamien, c'est pas un prénom français. Je connais personne qui s'appelle comme ça. C'est Eutychus. Bon, c'est pas grave. Donc, ça fait 3. Il m'en manque 4. Dans l'évangile, il y en a un autre. Dans l'évangile, il y en a encore un autre. Allez, 10 secondes. Non. Bravo. C'était pas une femme, mais c'était un homme. Il fallait le trouver. Mais c'était le fils d'une femme. Le fils de la veuve du village de Naïn, dans Luc chapitre 7. Ça fait 4. Alors, visiblement, les miracles de résurrection dans l'Ancien Testament, c'est toujours plus compliqué, l'Ancien Testament. C'est pas que c'est plus compliqué, mais c'est qu'on lit moins souvent, peut-être, dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y en a 3. Élisée en a fait un. Bon, on peut le dire, c'était le fils d'une femme sunamite. Qui d'autre en a fait un? Allez, si c'est pas Élisée, c'est Élie. Et lui aussi, c'est le fils d'une veuve. Ça fait cinq. Et comme par hasard, il me manque les deux résurrections les plus étonnantes. Une dans l'Ancien, une dans le Nouveau. Il y en a deux qui sont mystérieuses. Déjà, une résurrection de mort, c'est mystérieux quand même. Hein. C'est extraordinaire. Mais il m'en manque deux. Une dans l'Ancien Testament, une dans le Nouveau, qui sont plus mystérieuses peut-être que les autres. Alors, vous avez une demi-heure pour trouver. Non, un petit peu moins. Alors, il y en a une, c'est Élisée. Élisée est concernée. Moi, j'aime bien tout ce qui est mystère. Comment ? Non, non, non. Si, il est mort, mais il n'est pas ressuscité. Il y a longtemps qu'il est mort. Mais il y a longtemps. C'est deux textes vraiment très mystérieux, je vais vous le dire. Moi, j'aime bien, je m'en souviens parce que j'aime bien tout ce qui est un peu mystérieux dans la Bible. Attention, hein. Je ne cherche pas les choses bizarres, mystérieuses et occultes. Mais c'est peut-être la résurrection la plus étrange. Je ne prêche jamais là-dessus parce que c'est trop étrange. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. On le lira une autre fois, c'est dans 2 Rois chapitre 13. L'histoire est toute simple, elle tient en deux versets. Le prophète Élisée était mort. Quelques temps après, il y a eu une bataille. Alors, je suppose qu'il n'y avait pas longtemps qu'on l'avait déposé dans sa tombe. Pourquoi ? Parce que le récit nous dit, un peu après, il y a eu un autre enterrement. On transportait le mort pour l'enterrer. Quand on a appris que c'était la guerre certainement dans les parages, et puis tellement les gens qui transportaient le mort pour le jeter dans la tombe ont eu peur d'être tués avec la guerre, ils ont peur d'être rajoutés aux morts, qu'ils ont couru et ils ont jeté le mort, et comme par hasard la tombe de Élisée, qui je pense devait être enterrée depuis très peu, même pas enterrée puisqu'il était simplement, le mort est tombé dans la tombe d'Élisée. Et la Bible dit qu'en touchant les os d'Élisée, il a repris vie. Ah oui, visiblement, ça vous étonne cette histoire. Notez bien 2 Rois chapitre 13, versets 20 et 21. 2 Rois chapitre 13, versets 20 et 21. C'est une histoire étrange. Alors, quand on dit qu'il toucha les os d'Élisée, ça suppose qu'Élisée était mort depuis un certain temps. Comment se fait-il que, peut-être qu'avec la guerre, on avait bougé les terrains. En tout cas, c'est en touchant le corps mort d'Élisée que ce mort a repris vie. Ne me demandez pas de vous expliquer ça cet après-midi. Je vais vous parler de la résurrection de Lazare plus tôt. Parce que c'est très, très mystérieux. Et vous savez, ça y est, vous avez lu, hein, c'est pas long. Et c'est ça. C'est étrange. Alors, vous demanderez à vos pasteurs de vous expliquer cela. Alors, dites pas que c'est moi qui vous ai dit ça. Mais c'est très mystérieux. La deux dernières résurrections dans l'Évangile, cette fois-ci, c'est à la mort de Jésus. Il nous est dit dans Matthieu 27 que lorsque Jésus est mort, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu un violent orage, le voile qu'il y avait dans le temple de Jérusalem s'est déchiré de haut en bas. Et des morts, voilà, il y a des morts qui sont sortis de leur tombeau et qui sont rentrés dans la ville de Jérusalem et ils ont été vus par plusieurs. On n'a pas le nombre, peut-être 10, peut-être 20, peut-être 50, vous imaginez. Alors, je suppose qu'ils n'étaient pas morts depuis longtemps. Ça aussi c'est un mystère. Mais c'est écrit dans l'évangile de Matthieu. Voilà, alors cet après-midi, on va s'arrêter non pas sur ces deux derniers, parce que c'est quand même très, très mystérieux, mais on va s'arrêter sur la résurrection de Lazare, parce que c'est une histoire intéressante. Nous l'avons lu, je n'ai pas lu tout le chapitre, parce que ce serait trop long, mais j'ai pris les textes qui ont été lus tout à l'heure par Adeline, ce sont les textes clés de l'histoire. Donc Lazare, qui visiblement était un ami de Jésus, Jésus était aussi un ami de ses sœurs. Il est parlé de Marthe et Marie à trois reprises dans l'évangile. Une première fois dans l'évangile de Luc, quand Jésus s'arrête dans leur maison, mais il n'est pas mentionné, Lazare n'est pas mentionné. Il apparaît donc dans ce deuxième récit, et il apparaît également dans le chapitre 12, le chapitre suivant, quand Jésus est invité à un grand repas, quelque temps après la résurrection de Lazare. Et il y a là Marthe, il y a là Marie, et bien sûr il y a là Lazare. J'aimerais souligner 5 points que je ne développerai pas en détail, vu le temps. Tout d'abord, j'aimerais dire que cette mort de Lazare a été d'abord, bien sûr, une épreuve pour ses sœurs. Ensuite, j'aimerais parler de la venue de Jésus, puis du tournant de cette épreuve pour les deux sœurs, de ce que Jésus fait devant le tombeau, et puis ensuite, je terminerai en conclusion par les conséquences de ce miracle pour Lazare et ses deux sœurs. Alors, très succinctement, très courtement, tout d'abord, l'épreuve. Alors, l'épreuve, elle est étrange parce que Lazare est malade, visiblement, il était malade, le texte laisse entendre qu'il était malade depuis un certain temps. Il est mort, et avant qu'il meure, ses deux sœurs ont envoyé un message à Jésus. Alors, savaient-elles où il se trouvait ? Peut-être pas, c'est peut-être pour cela qu'il a fallu du temps avant que Jésus arrive. 4 jours, dit le texte, un peu plus de 4 jours, parce que quand Jésus arrive, il est mort depuis 4 jours, mais Jésus a appris qu'il devait venir avant sa mort. Donc peut-être Jésus a appris la nouvelle 2 jours, mettons 2-3 jours avant sa mort, puis 4 jours après, donc plusieurs jours après, il est arrivé, quand Lazare était mort et enterré depuis 4 jours. Ensuite, je dirais donc, cette réaction de Jésus est étonnante parce que Jésus attend. Il reste encore un peu de temps à l'endroit où il est, après avoir reçu le message, Lazare est malade. Et puis, il y a ensuite cette phrase, nous l'avons lue tout à l'heure, étonnante de Jésus, Jésus qui dit, cette maladie n'est pas pour la mort, n'est pas destinée à la mort. C'est-à-dire, Lazare, comme si, alors on pourrait comprendre un premier degré, cette maladie, Lazare ne va pas en mourir, mais Lazare est mort, donc c'est pas comme ça qu'il faut l'interpréter. Cette maladie, il faut interpréter en disant, cette maladie va peut-être l'emmener à la mort, mais c'est pas le but final. C'est une annonce par Jésus déjà de ce qu'il va faire. Cette maladie, c'est pas la fin de tout pour Lazare. Les disciples, en entendant cela, pensent que Jésus va aller et va le guérir, comme d'habitude. D'ailleurs, c'est ce que pensent les deux sœurs. Nous allons voir tout à l'heure ce qu'elles disent quand Jésus arrive. Pourquoi est-ce que Jésus dit cela ? Je crois essentiellement parce que quand il nous arrive quelque chose de grave, qui à nos yeux est grave, Jésus sait comment cela va se terminer. Nous ne savons pas. Quand nous sommes atteints par la maladie, bon, peut-être pas par une maladie grave, mais quand nous sommes atteints par la maladie, quand une épreuve nous arrive, si, pour les moins jeunes, je ne vais pas dire les plus âgés, parce qu'apparemment personne n'est très âgé, mais pour les moins jeunes, ceux qui travaillent déjà, je veux dire, on peut perdre un travail. Perdre un travail, c'est une épreuve, quelque part, surtout par les temps qui courent. On peut perdre un membre de sa famille, c'est une épreuve. Mais Jésus parle ainsi aux deux sœurs, pardon, à ses disciples, parce qu'il a un point de supériorité sur nous, c'est qu'il voit au-delà du présent. Jésus voit dans l'avenir. Dieu voit dans l'avenir. Et donc, lorsqu'il parle, ses paroles sont parfois surprenantes. Comme nous l'avons vu dans d'autres miracles de Jésus, ses paroles sont parfois surprenantes, mais il parle parce qu'il sait. Nous ne savons pas toujours. Nous entrons dans l'épreuve et tout de suite nous avons la tendance naturelle à nous inquiéter parce que nous ne savons pas quelle va être la suite. Mais Dieu le sait et la parole de Dieu est toujours rassurante. Le deuxième point, c'est Jésus arrive. Alors, quand Jésus arrive, vous avez remarqué avec moi, nous n'avons peut-être pas lu tout le texte, mais je vais vous le dire si nous ne l'avons pas lu. Quand Jésus arrive à Béthanie, où habitent Marthe et Marie, c'est bien sûr le deuil. Il y a Marthe et Marie, non, je crois qu'on ne l'a pas lu, c'est la suite, mais bon, c'est pas grave. Quand Marthe et Marie apprennent que Jésus est arrivé, c'est Marthe qui l'apprend en premier, elle part, C'est après, je crois. Mais c'est pas grave. Elle part, elle sort de la maison, elle court vers Jésus à sa rencontre, et tout de suite elle lui dit, si tu étais arrivé plus tôt, mon frère ne serait pas mort. Si tu étais arrivé plus tôt, mon frère ne serait pas mort. C'est au verset 21, merci. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et elle ajoute aussitôt, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Marthe parle, Marthe agit. Si une autre fois nous avons l'occasion de parler un peu de ces trois textes qui nous parlent de Marthe, Marie et Lazare, il y en a trois dans l'évangile, un dans l'évangile de Luc, deux dans l'évangile de Jean, nous verrons que Marthe est toujours une femme qui bouge, qui agit, qui parle. Alors que sa sœur Marie, nous allons le voir dans un instant, Marie parle très peu. Elle agit très peu. Lorsqu'on voit Marie la première fois, elle est au pied de Jésus, elle écoute pendant que sa sœur fait à manger, et elle proteste sa sœur Marthe parce que Marie ne fait rien, ne l'aide pas. Quand Marthe va voir Jésus, elle discute avec Jésus, et puis après, elle appelle sa sœur et elle lui dit, le maître est arrivé, il t'appelle. Marie va voir Jésus, et quand elle arrive devant Jésus, qu'est-ce qu'elle lui dit ? Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est la même chose. C'est la même chose, et cela peut nous laisser penser que ces deux femmes de caractère très différent, d'ailleurs la preuve c'est que lorsque Marie dit cela à Jésus, elle tombe à ses pieds, nous dit le récit, et elle ne dit plus rien. Elle pleure, les amis qui sont autour d'elle pleurent avec elle, et quelques instants après l'évangile dit, Jésus a versé des larmes en voyant leur détresse. Marthe discute avec Jésus. Elle lui dit dans un premier temps, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais tout ce que tu demanderas, Dieu le fera. Apparemment, on n'est pas sûr qu'elle voulait dire par là, même si tu le ressuscites, c'est possible. Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu. Mais cependant, Jésus lui dit, ton frère va se relever. Et Marthe dit, je sais qu'il se réveillera à la résurrection au dernier jour. Donc apparemment elle croit que son frère ressuscitera, mais à la fin, quand tout le monde ressuscitera. Et Jésus lui dit, je suis moi, la résurrection et la vie, celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Et Marthe dit, je suis convaincu que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Donc les deux sœurs disent la même chose, mais elles ne se comportent pas de la même manière. Marthe discute avec Jésus, sans polémiquer, elle sait que son frère est mort, mais en même temps, elle se demande est-ce que Jésus ne peut pas faire autre chose. Et Jésus va petit à petit essayer, et c'est là ce que j'appelle le tournant de l'épreuve, c'est cette discussion entre Marthe et Marie. L'épreuve est là, elle semble inéluctable. Plutôt inéluctable, elle semble bien ancrée, apparemment on ne peut plus rien faire. Mais Marthe discute quand même avec Jésus parce qu'elle sait que c'est Jésus. Et elle se dit, mais Jésus, c'est Jésus. Il a quand même de la puissance, il a guéri des malades et toutes sortes de malades. Est-ce que là il ne pourrait pas encore faire quelque chose ? Et Jésus, en parlant avec Marthe, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut bâtir sa foi. Il veut que Marthe sache que puisque Jésus est là, c'est l'essentiel. Son frère est mort, d'accord, depuis 4 jours. Mais Jésus est là. Jésus est arrivé. Et vous savez que Jésus a une grande puissance. Jésus est capable de faire de grands miracles. Alors Jésus va petit à petit amener Marthe à croire qu'il est là, pas pour la consoler seulement, mais pour faire quelque chose de grand. Est-ce que Marthe sait que Jésus a déjà ressuscité des morts ? On peut le penser, même si les deux résurrections précédentes avaient visiblement eu lieu plutôt dans le nord du pays, en Galilée, et non pas à côté de Jérusalem où se trouvaient Marthe et Marie, à Béthanie. On peut penser que la réputation de Jésus, peut-être même que les disciples de Jésus qui sont arrivés, eux aussi, ont commencé à dire à Marthe, « Tu sais, on ne sait jamais, Jésus a déjà ressuscité des morts. Il y en avait un, le fils de la veuve de Naïn, on était là, on l'a vu. Et puis il y avait le fils de, pardon, la fille de Jaïrus, elle était morte depuis quelques heures, Jésus l'a guérie. » Alors peut-être que Marthe aurait répondu, si on lui a dit cela, « Mais moi, mon frère, il est mort depuis 4 jours, il est dans le tombeau. » Hein, c'est comme si on disait, ben, mon frère, il est mort depuis 4 jours, il est au cimetière de Paris, là, je ne sais pas lequel, sous une dalle. On ne ressuscite pas les morts une fois qu'ils sont enterrés. Et pourtant, Jésus va bâtir la foi de Marthe. Quant à Marie, elle ne dit rien, elle est à ses pieds, elle pleure, elle est effondrée. Jésus va amener les deux sœurs jusqu'au lieu du miracle. Alors, le quatrième point, donc, c'est la visite au tombeau. Moi, je pense que les gens devaient se dire, on va aller au tombeau. Il va, comme lorsqu'on est arrivé trop tard pour un enterrement. Quelquefois, on va voir les gens et puis on leur dit, ben, j'aimerais bien aller voir au cimetière, voir la tombe. Alors, on va. Peut-être que les amis de Marthe et Marie se sont dit, il va, par respect pour la mémoire de Lazare, il va s'incliner sur sa tombe, devant son tombeau. Mais Jésus veut toujours aller plus loin que ce que nous croyons. Rappelez-vous, nous avons lu, je crois, il y a quelque temps, ce texte de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, versets 20 et 21. « Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. » De ce que nous demandons ou pensons, ou demandons ou imaginons. Jésus veut toujours faire plus que ce que nous croyons. Pourtant, quelquefois, nous croyons, nous rêvons de grandes choses. Jésus veut bâtir toujours notre foi pour que nous nous attendions à lui. Alors, la scène près du tombeau, je terminerai par cela avant de faire la conclusion, est assez extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'ils descendent au tombeau, enfin, ils descendent, ils vont au tombeau. Vous savez, les tombeaux à l'époque, c'était des espèces de cavernes creusées dans le roc. On mettait le mort, on déposait le mort à l'intérieur, par terre ou sous une petite table en pierre, et après on refermait le tombeau, vous le savez, avec la résurrection de Jésus, et on roulait sur une espèce de rail devant l'entrée du tombeau une grande pierre, donc plus ou moins ronde pour qu'elle puisse rouler un peu. On la poussait certainement à plusieurs, ou ils avaient peut-être des appareils spéciaux, des cordes pour tirer la... Et on mettait cette grosse pierre devant le tombeau pour le fermer. Alors, ils arrivent devant le tombeau, et tout le monde s'attend sans doute à ce que Jésus s'incline, éventuellement fasse une prière, pour que Dieu bénisse ses sœurs, les fortifie, les console. Et la grande surprise, c'est quand Jésus dit « Enlevez la pierre. » Enlever la pierre. Mais Marthe proteste. Elle est gênée. Elle veut bien croire que Jésus va faire quelque chose. Mais peut-être croit-elle que Jésus va ressusciter Lazare et par un mot, simplement, la pierre va rouler. Non, Jésus dit, enlevez la pierre. C'est un test de la foi. C'est douloureux. Enlever la pierre, mais Marthe dit, « Mais Seigneur, si on roule la pierre, si on ouvre le tombeau, il va y avoir une drôle d'odeur qui va sortir, parce qu'il est mort depuis 4 jours, ça va sentir mauvais. » Jésus dit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. » Parfois, il est difficile d'entrer dans cette phase où Dieu va manifester sa gloire par son action dans notre vie, parce qu'il y a un effort à faire. Vous savez que dans la Bible, nous voyons que toute grande bénédiction a eu son prix. Regardez par exemple dans l'Ancien Testament, Joseph, le fils de Jacob. Joseph qui avait été vendu par ses frères en esclavage et qui ensuite s'est retrouvé esclave en Égypte dans la maison d'un haut fonctionnaire du roi d'Égypte. Joseph avait eu des rêves dans sa jeunesse de gloire. Il se voyait régner, commander à ses frères. Il voyait tout le monde s'incliner devant lui. Vous savez, il ne faut pas trop raconter ce genre de rêve. Parce que les gens disent, mais t'as un petit peu, permettez-moi l'expression, la folie des grandeurs, ou t'es un peu mégalomane. Et pourtant, c'était des rêves que Dieu lui avait donnés. Mais pour arriver là, parce que c'était des rêves que Dieu lui avait donnés, des sortes de rêves prophétiques, pour arriver là, Joseph a dû suivre un chemin douloureux. Jésus a obtenu le pardon de nos péchés, mais nous savons à quel prix. Au prix de sa propre mort et de ses propres souffrances terribles. Chaque chemin de victoire a un prix. Et ce chemin-là, pour Marthe et Marie, si elles veulent revoir leur frère vivant, il faut d'abord enlever la pierre. Bien sûr que ça va sentir. Et c'est toujours gênant que quelqu'un de notre propre famille dégage une odeur nauséabonde. Personne n'aime ça. C'est quelque chose qui nous gêne, qui est inconvenant, qui est embarrassant. Quelque chose dont, à la limite, on a honte. Mais c'est le chemin que Jésus donne. Rappelez-vous encore ce général syrien, Naaman, qui, pour être guéri de sa lèpre, a dû s'humilier en public devant ses soldats, lui le général en chef, l'homme le plus couvert de gloire du pays. Il a dû se déshabiller devant ses soldats et descendre dans l'eau 7 fois. Mais au bout de cela, il y avait la guérison et l'honneur et la gloire de retour. Alors, les sœurs obéissent, elles font enlever la pierre. Ils ont dû appeler des gens qualifiés pour cela, peut-être les employés aux pompes funèbres du village. On les a fait venir en vitesse. Venez, il se passe quelque chose de bizarre, on ne comprend rien. Alors ils arrivent, on leur dit, il faut que vous rouliez la pierre. Mais on n'a jamais fait une chose pareille. Que va dire le maire de la ville? Que va dire le responsable au service de la mairie, du cimetière? C'est une chose que jamais vue. Jésus a dit, enlevez la pierre. Et il fallait enlever la pierre pour que le miracle ait lieu. Jésus ensuite n'a plus qu'à dire, Seigneur, et je préfère lire cette parole de Jésus parce qu'elle est elle aussi extraordinaire. C'est au verset 41. Jésus, ils enlevèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Avant même que Lazare soit ressuscité, alors que la pierre est enlevée, pour l'instant rien n'a bougé, sauf qu'une odeur nauséabonde commence à sortir du tombeau, et Jésus est là et il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as entendu, tu m'as exaucé. C'est une confiance totale en Dieu que manifeste Jésus. Quant à moi, dit-il, je savais que tu m'entends toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui se tient ici pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus va maintenant accomplir l'acte majeur qui va venir récompenser la foi de Marthe. Marthe comptait sur lui sans savoir ce qu'il allait faire, en espérant ou en rêvant qu'il ressuscite Lazare sans savoir comment il allait s'y prendre. Ça a été un peu gênant parce qu'il a fallu enlever la pierre. Mais maintenant Jésus dit, Lazare, sort. Et le miracle a lieu et Lazare sort. Alors, je conclue. Est-ce que cela a changé quelque chose dans la vie des trois? Bien sûr, dans la vie de Lazare, c'est évident. Pas besoin de m'étendre longuement là-dessus. Lazare a recommencé sa vie. Lazare a recommencé sa vie. On retrouve les trois frères et sœurs dans le chapitre suivant, chapitre 12. Il y a un grand repas qui est donné, peut-être pour fêter Jésus, peut-être pour marquer la résurrection de Lazare. On ne sait pas exactement combien de temps après. Mais un repas est donné et à ce repas, dans la maison d'un ami, Lazare, Marthe et Marie sont là. Marthe, que fait-elle ? Elle sert aux tables. C'est toujours ce qu'elle fait. On l'avait déjà vu servir aux tables. Là, Marthe, dans une maison, il faut qu'elle travaille. Il faut qu'elle bouge. Il y a des gens comme ça. Vous connaissez des gens qui ne restent jamais en place? Oui? Non? Vous avez le droit de dire sans dire de qui il s'agit. Oui? Bon. Marthe, il faut qu'elle bouge. Elle ne reste pas en place. Elle n'existe que dans le mouvement. C'est pas un mal. C'est un caractère, c'est tout. Ce n'est pas un mauvais caractère. Heureusement qu'il y a des gens qui bougent. Heureusement qu'il y a des gens qui travaillent. Heureusement qu'il y a des gens qui servent. Son existence, c'est toujours le service. Mais alors que dans Luc, on la voyait servir en se plaignant de ce que Marthe ne vienne pas, de ce que Marie ne vienne pas l'aider, maintenant, Marthe ne dit plus rien. Elle a compris. Jésus est passé par là. Il a fait le miracle extraordinaire. Elle est bouleversée. Alors elle va continuer à servir parce que c'est ce qu'elle sait faire le mieux. C'est son talent. Mais elle ne proteste plus. Parce qu'elle sait que tout est entre les mains de Jésus. Marie, au chapitre 12, on ne le lira pas, mais vous pourrez lire ces quelques versets. Marie, pendant le repas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne sert toujours pas aux tables. C'est pas ça son truc, hein? Servir aux tables, mettre la table, débarrasser, faire la cuisine, c'est pas son affaire. Alors Marie, elle se rejette aux pieds de Jésus parce que c'est tout ce qu'elle sait faire. S'incliner devant Jésus, se prosterner devant Jésus, et elle va laver les pieds de Jésus avec un parfum de grand prix pour manifester sa reconnaissance envers lui. Son cœur a été à elle aussi bouleversé, mais elle l'exprime d'une autre manière parce qu'elle est différente. Et puis enfin, Lazare, la première fois où la Bible parle de lui, il n'était pas là. La deuxième fois, il était là, mais il était mort. Il ne parlait toujours pas. Et la troisième fois, il est à table avec tout le monde, mais il ne dit rien. Mais sa vie nouvelle, le fait même que Jésus l'ait ressuscité, va être pour lui un témoignage vivant. Est-ce qu'il y a besoin de parler quand vous présentez quelqu'un en disant « Voilà Lazare, notre ami Lazare, il est mort il y a quelque temps, et puis quatre jours après sa mort, Jésus est venu et l'a ressuscité. » Le seul fait de le voir parle déjà. Lazare n'a pas besoin de parler. Il lui suffit d'aller partout et dire « Voilà, moi il m'est arrivé une histoire, j'étais mort, mais un jour quelqu'un est venu, il s'appelait Jésus, on m'a raconté ça parce que moi j'étais mort, et puis j'étais dans le tombeau depuis quatre jours, et puis tout d'un coup, j'ai entendu un bruit, Lazare sort, et cette voix m'a réveillé, hein, comme si vous êtes bien endormi dans votre chambre, puis tout d'un coup on vous dit « Allez, lève-toi !» Et Lazare s'est réveillé. Et Jésus ne lui a pas dit « Maintenant, fais ceci, fais cela », il ne lui a pas dit comme à quelqu'un d'autre « Maintenant, va et ne pêche plus, afin qu'il t'arrive quelque chose de pire, parce qu'il n'y a rien de pire que de mourir ». Non, Jésus ne lui dit rien. Mais Lazare a tout compris. Jésus est tout puissant et maintenant il pourra rendre témoignage en deux, trois phrases. Simplement, il pourra dire « J'étais mort, Jésus est venu et je suis vivant ». Alors, ce dernier miracle, c'est le plus spectaculaire, c'est le plus grand, c'est le plus profond. Il manifeste la puissance que Jésus a sur le plus terrible ennemi de l'homme, c'est la mort. Jésus est capable de ressusciter des morts. Jésus est capable de tout. Et quelle plus merveilleuse assurance pouvons-nous avoir que de savoir que Jésus est tout puissant, qu'il peut faire n'importe quel miracle si c'est nécessaire dans notre vie. Alors, ayons foi en lui, comme disait Jean. Toutes ces choses ont été racontées pour que vous ayez la foi, pour que vous ayez la foi en Jésus et qu'en ayant la foi, vous ayez la vie par son nom. Que Dieu vous bénisse.